L'histoire de Joseph. Donc Joseph est un des 12 fils de Jacob Israël. Il a des songes extraordinaires qui, il dit à son père, au patriarche quand même, Jacob Israël, j'ai eu un songe où il y avait le soleil et la lune et 12 étoiles. Eh bien, les 11 étoiles s'inclinait devant une des 12, et la terre et la lune, le soleil et la lune s'inclinaient devant cette 12e étoile. Et là, son père lui dit qu'est-ce à dire? Ça veut dire que ta mère et moi, on va te vénérer, et que tes 11 frères vont te vénérer. Ben, je ne sais pas, moi. C'est Dieu qui m'a donné ce songe. Ensuite, il a un autre songe, il y a 12 bottes de blé qui sont liées. Et 11 des bottes de blé s'inclinent devant la 12e. Et là, les 11 frères de Joseph se disent, alors on va te vénérer. Ah ben, c'est pas de ma faute si j'ai eu ce songe. Bon. Alors, comme il est gentil, pieux, très prévenant vis-à-vis de son père, s'occupant du frère cadet très gentiment, Benjamin. Les autres sont jaloux et finissent par décider de tuer. Ils décident de tuer Joseph par pure jalousie. C'est pas bien. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Joseph avait une magnifique tunique qui avait été brodée par sa maman avec beaucoup de couleurs. Il va voir ses frères pour leur apporter à manger parce qu'ils étaient dans les travaux des champs. Et alors que Joseph arrive, ingénu et candide, ses frères lui tombent dessus et décident de l'égorger. Ils le ligotent et puis ils réfléchissent. N'empêche que Joseph, pendant ce temps-là, il est ligoté, hein, donc il rigole moins. Et ils disent, qu'est-ce qu'on va faire? Et vous avez le frère aîné, et je me trompe très souvent, c'est Ruben, qui va dire, eh bien, le tuer directement, c'est pas très bien. On va le mettre dans une cuve, dans une citerne desséchée dans le désert qui était utilisée pour maintenir de l'eau, creusée dans le sol, et là il va y mourir de faim, donc au moins on l'aura pas tué, n'aura pas versé son sang. C'est gentil, hein, comme genre de mort. Voilà. Donc ils le mettent dans les profondeurs de la terre. Tout ça c'est prophétique, hein, par rapport à Jésus. Et ils s'en vont pour le laisser mourir de faim. Mais en fait, alors que Ruben est parti, les autres voient arriver des marchands ismaélites, les descendants d'Ismaël, hein, donc qui sont d'une tribu proche d'eux finalement, hein, puisqu'ils descendent quand même de leur grand-père Abraham, de leur arrière-grand-père Abraham. Et ils le vendent, ils le sortent de la citerne et ils le vendent à ces marchands ismaélites pour qu'ils en fassent qu'ils le vendent eux-mêmes en Égypte. Donc eux sont dans une caravane, ils prennent Joseph et ils partent en Égypte. Là, ils le mettent dans un marché d'esclaves et dans ce marché d'esclaves, eh bien, vous avez un grand officier du roi d'Égypte, Putiphar, qui achète Joseph. C'est un homme posé, intelligent, ça fera un très bon esclave de maison. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tuer un chevreau, mettre le sang du chevreau sur la tunique de Joseph. Et ils vont voir le vieux Jacob Israël et ils lui montrent le vêtement en disant « Joseph n'est jamais arrivé et on a trouvé son vêtement taché de sang, il a dû être attaqué par une bête sauvage, par un lion. » Il y avait des lions encore à l'époque. Eh bien, Jacob, Israël, pleure son fils Joseph. Pendant ce temps-là, Joseph, lui, est dans la grande maison d'un grand officier de Pharaon. La femme de Putiphar trouve Joseph très joli et lui court après. Et Joseph refuse de tromper son maître et d'accepter les avances de sa femme. Ce qui fait que sa femme hurle et dit que Joseph l'a violée ou a tenté de la violer. Donc Putiphar ne comprend pas trop parce qu'il a une grande estime de Joseph, mais il est mis en prison. Mis en prison, il se retrouve avec l'œnologue de Pharaon, le grand échanson, celui qui sert le vin à la table de Pharaon, qui a déplu à Pharaon et qui avait été jeté en prison. Et il se retrouve avec le boulanger de la cour de Pharaon, qui avait déplu à Pharaon et qui avait été mis en prison. Et là, ils ont tous les deux un songe. Et Joseph, qui a eu lui-même des songes, interprète leurs songes. Le panetier, lui, a des pains sur la tête, et puis il y a des corbeaux qui arrivent et qui mangent le pain, mais qui attaquent et qui tuent le panetier. Il ne comprend pas ce que ça veut dire. Tandis que l'échanson, lui, a un songe où il récolte du vin et il le sert à nouveau. Eh bien, vous me direz, c'est assez simple à interpréter. Le pauvre panetier est condamné à mort et exécuté, et l'échanson est rétabli dans ses fonctions. Mais voilà que Pharaon a un songe effrayant une nuit. Les vaches maigres et les vaches grasses. Il voit 7 vaches très belles et très grasses qui sont en train de manger, de paître sur le bord du Nil. Et tout d'un coup, 7 vaches horribles, maigres, qui arrivent et qui dévorent les vaches grasses, sans grossir d'ailleurs. Il a une autre vision, il voit 7 épis de blé qui sont très beaux, avec de beaux grains, et qui sont dévorés par 7 épis desséchés avec les grains faméliques. Et il est effrayé par tout ça, alors il fait venir les sorciers d'Égypte, qui invoquent les esprits et les dieux égyptiens, qui sont des démons. Et il leur demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ils ne savent pas interpréter. Dieu les empêche même de donner une fausse interprétation. Ils disent, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et là, le grand échanson qui lui sert le vin à table lui dit, eh bien, il y a un jeune hébreu qui est en prison et qui a un bon sens assez particulier qui pourrait vous interpréter. Il le fait sortir de prison et Joseph lui dit, c'est au nom du vrai Dieu que je vais te dire l'interprétation de ces songes. Pas au nom de tes dieux, mais au nom du Dieu unique. Et il lui dit, vous allez avoir 7 années de prospérité suivies de 7 années de famine. Ah bon? Et pourquoi dois-je te croire? Eh bien, c'est Dieu qui m'inspire cette réponse. Eh bien, du coup, Pharaon retire son anneau, le donne à Joseph et dit, ben maintenant, tu es intendant du royaume. Eh bien, pendant 7 ans, Joseph va faire mettre de côté tous les surplus de ces récoltes extraordinaires de ces 7 années, qui sont extraordinaires, avec des rendements extraordinaires. Mais au bout de 7 ans, il ne pleut plus. Il ne pleut plus. Et c'est la famine et la disette. Mais les greniers d'Égypte sont pleins. Et on vient de toute la région pour se nourrir auprès des Égyptiens qui avaient été si prudents pendant 7 ans. Et parmi ceux qui sont touchés par la disette, et vous avez le pays de Canaan, la Palestine, la Terre Sainte. Et vous avez Jacob qui envoie ses fils acheter du blé aux Égyptiens. Les voilà qui arrivent aux distributions de blé, et Joseph, qui est maintenant dans la cour de Pharaon et qui est habillé comme un Égyptien, et donc aussi maquillé comme les Égyptiens, il est grand officier du Pharaon, reconnaît ses frères. Mais eux ne le reconnaissent pas tellement il a le collier pharaonique, il a la coiffe pharaonique, donc égyptienne, ils ne le reconnaissent pas. Et là, il voit ses frères. Au lieu de les faire exécuter par les soldats de Pharaon, il leur parle brutalement, il accepte qu'on leur vende du blé, il leur dit « Vous n'auriez pas un frère ?»« Un frère, quel frère ?» Un jeune frère au moins. Si, il est resté avec notre père. Il s'appelle Benjamin, il est jeune. Eh bien, revenez avec votre frère. Et vous aurez plus de blé. Ils sont terrorisés. Ils reviennent voir Jacob Israël et disent, voilà, l'intendant de Pharaon veut voir Benjamin. Et là, Jacob Israël dit, oh là là, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il va le prendre en otage, qu'est-ce qui se passe ? Ils reviennent avec Benjamin, et là, Joseph voit Benjamin, son propre frère, qui lui n'est pour rien dans toutes ces manigances de meurtre, il était auprès de son père. Il se retire pour pleurer. Il revient, et il ne retient pas Benjamin, il fait remplir de blé les montures des fils de Jacob Israël, mais il met sa coupe personnelle en or dans un des sacs et celui de Benjamin, et ensuite il envoie l'armée égyptienne poursuivre la caravane pour dire vous avez pendant notre entretien vous avez volé ma coupe. Et il la trouve dans les sacs de Benjamin et dit « C'est le voleur, on le retient en otage. » Et Benjamin, du coup, va retrouver Joseph et Joseph aura la joie de l'avoir plusieurs jours avec lui. Sauf que quand ils reviennent, Jacob Israël leur dit « Je vous l'avais bien dit, il voulait garder Benjamin, je n'ai plus qu'à mourir puisque mon gentil fils m'a été pris. » Alors, ils repartent. Et il supplie Joseph de rendre Benjamin. Et là, Joseph se met à nouveau à pleurer, mais là devant eux, il leur dit « Je suis Joseph ». Et alors les autres voient leur dernière heure arriver, et Joseph leur dit « Je vous pardonne ». Et il est tout heureux d'avoir son frère, Benjamin, et de retrouver son père qui est tout heureux lui aussi. Et donc, ils vont rester en Égypte pendant les 7 années de famine. Et non seulement ils vont rester, mais ils vont rester. À partir de cette famine, la famille de Jacob Israël et ses 12 fils restent en Égypte. Et donc, ils vont rester là à l'occasion de cette famine. Et au début, le roi, le pharaon, est tout content de prendre la tribu de Joseph, parce que du temps d'Abraham, ils étaient 300, ils sont peut-être 1000, 2000, mais ils ne sont pas plus. Et pour qu'ils soient tranquilles, comme ils font de l'élevage et que les Égyptiens détestaient l'élevage des boucs et des moutons, il les laisse dans le nord de l'Égypte. Seulement, voyez-vous, il se développe et il y a une bénédiction particulière. Une bénédiction toute particulière parce que les enfants des Hébreux survivent et les femmes ont énormément d'enfants et ils ne meurent pas. Il n'y a pas de mortalité infantile dans ce peuple, ce qui effraie petit à petit les Égyptiens. Mais vous savez, quand Sainte Catherine Labouret, je crois, était la 17e enfant de 24, ou de 22 enfants, la mère de Sainte Catherine Labouret, je crois, a eu au moins 17 enfants. Ce qui peut nous paraître légendaire peut être intéressant si on voit justement comment les femmes en très bonne santé avaient beaucoup de grossesses. Et les Hébreux se multiplient dans ce nord de l'Égypte. Voilà. Et là, voyez-vous, ça va très mal. Au bout d'un certain temps, les Hébreux se multiplient. À la mort de Jacob, qui réunit autour de lui Joseph et ses enfants, il va bénir tous ses enfants. Et arrivé à Judas, qui est un des frères qui a voulu tuer Joseph quand même, il y a une prophétie qui est très impressionnante. Cette prophétie est la prophétie justement qui va nous projeter sur David et sur Bethléem et sur Noël. Voilà ce qu'il dit. Judas, tes frères te loueront et se prosterneront devant toi. La valeur de cette prophétie est toute particulière parce que qui est actuellement l'intendant de tout le royaume d'Égypte, c'est Joseph et pas Judas. Donc cette prophétie est toute particulière. Ta main sera sur la tête de tes ennemis. Et le sceptre ne sortira pas de Judas jusqu'à ce que vienne celui qui doit être envoyé et qui est l'attente des nations. Oh, alors là, étant donné qu'on est du temps de Jacob Israël, qu'on est environ à 1900-1700 ans avant Jésus-Christ, alors là, c'est faux, ça a été écrit après, c'est pas possible que Jacob fasse cette prophétie, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Il n'empêche que dans la synagogue, cette prophétie est attribuée à Jacob Israël absolument. Il mourut ensuite paisiblement, et suivant son désir, son corps fut immédiatement transporté au pays de Canaan, pour être enseveli à côté d'Abraham, d'Isaac et de Rebecca, son épouse. 54 ans plus tard, Joseph mourut et honoré par la cour d'Égypte. Ses restes ont été conservés par les Hébreux et il avait fait promettre que un jour, en revenant dans la terre, dans la vallée de Mambré, qui est la vallée qui avait été achetée par Abraham, quand il quitterait l'Égypte, il devrait reprendre son corps. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 400 ans, les Hébreux sont plusieurs centaines de milliers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette fécondité qui est rejetée par les rationalistes dans l'histoire sainte. Alors si on est dans l'histoire sainte un peu, mystique, n'est-ce pas, et qu'on insiste sur le caractère historique des révélations de la Bible, eh bien, il y a au moins 600 000 Hébreux. Au moins 600 000. Et les Égyptiens finissent par être jaloux de leur prospérité, de leur bonheur, et on estime que c'est Ramsès II qui va persécuter les Hébreux. La première décision qu'il va prendre, c'est de demander aux sages-femmes de tuer tous les garçons, de peur que ces Hébreux si nombreux forment une armée à terme alors qu'ils n'ont pas d'armée. Hein, le peuple hébreu est un peuple de bergers. Et la manière de les tuer, c'est de les noyer dans le Nil. Les sages-femmes qui reçoivent l'ordre d'accoucher les femmes juives ont peur de tuer des enfants, ont peur de la malédiction divine, et en fait les laissent naître. Et lorsqu'on est étonné du nombre de bébés qu'il y a encore, et surtout de garçons, les sages-femmes égyptiennes disent « Vous savez, avant même qu'on arrive chez elles, elles ont déjà, elles sont déjà accouchées et elles ont caché l'enfant. Elles sont très robustes et en très bonne santé, les femmes juives. Bon. » Et donc, le pharaon est de plus en plus furieux. Et il va faire mourir les nouveau-nés dès qu'on les voit. Les premiers-nés, enfin tous les garçons du peuple hébreu. Ce qui fait quand même beaucoup de morts. La maman d'un petit enfant, qui s'appelait Jochabed, et son père Amram, ne veut pas que son fils soit tué, et elle le met dans un petit panier qu'elle met sur le Nil. Elle-même était servante de la fille du pharaon, et elle pousse, elle ne met pas l'enfant au hasard, hein, elle met l'enfant près de là où se baigne la fille du pharaon, pour qu'elle ait pitié. Et ce petit enfant est récupéré dans une corbeille de joncs enduit de bitume pour qu'il flotte, et elle est touchée de compassion, elle va l'adopter et elle va le confier à sa servante qui est la mère de l'enfant et qui du coup va l'éduquer dans la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lorsque l'enfant eut grandi, la maman va apporter son enfant à la mère adoptive, hein, à la princesse, qui lui donna le nom de Moïse, et du coup, il est entré dans la cour d'Égypte. Et Moïse, donc, connaîtra parfaitement la civilisation égyptienne et parfaitement les dieux égyptiens et la sorcellerie égyptienne, tout en la rejetant. Bien qu'élevé à la cour, Moïse n'oubliait pas son peuple, parce qu'on savait quand même que c'était un petit hébreu qui avait été abandonné. Et un jour qu'il voit des Égyptiens frapper un hébreu, il va frapper le soldat égyptien et le tuer pour sauver l'hébreu. Plus tard, il voit deux hébreux se quereller. Et il leur dit, vous ne croyez pas que les Égyptiens vous persécutent suffisamment? Pour vous épuiser maintenant, ils vous font construire leurs maisons, leurs briques. Et pour vous épuiser encore plus, ils ne vous donnent même plus de paille pour que les briques soient armées, en quelque sorte. Vous devez vous-même trouver la paille pour faire les briques. Vous êtes épuisés en esclavage et vous vous frappez l'un l'autre. Et l'un des Hébreux, ou même les deux, mais l'un des Hébreux lui dit « Ah, tu te prends pour notre chef, tu veux peut-être nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. » Et en effet, on a su que Moïse avait tué ce soldat égyptien, cet Égyptien, ce qui était quand même un crime contre l'ordre égyptien, et bien que de la cour d'Égypte, il va s'enfuir dans le désert de Madian, qui est la péninsule du Sinaï. Et comment s'appelle cette bande de terre là? C'est le Sinaï. Et donc le voilà qui est chassé. Et il va passer 40 années dans le désert de Madian. Et là, il va épouser Séphora, qui est la fille d'un prêtre païen, Jéthro. Et donc, parce qu'il n'arrive pas à trouver une fille de son peuple, hein, il épouse Séphora. Et un jour que Moïse faisait paître le troupeau sur le mont Horeb, Dieu lui apparut au milieu d'un buisson qui brûlait sans se consumer. Et il lui annonça qu'il l'avait choisi pour délivrer le peuple d'Israël de la servitude d'Égypte. Alors il faut savoir que Moïse était fils donc d'Amram et de Jochabed, et que Amram et Jochabed étaient un couple de la tribu de Lévi. Mais à l'époque, toutes les tribus sont descendantes de Jacob Israël, sans distinction particulière, et il n'y a pas de roi. Juda reçoit cette prophétie, mais Juda n'est pas le roi de ses frères. Et voilà que Dieu lui dit qu'il doit aller voir Pharaon et persuader le peuple hébreu de sortir d'Égypte. Pourquoi je dis souvent le peuple hébreu ? Parce qu'on ne parlera du peuple juif qu'à partir du moment où les descendants de Juda, dans la personne de David, deviendront les rois. Et Juda donne le mot juif. On parle plutôt des Hébreux, des descendants d'Héber, lui-même descendant de Sem. Alors Moïse, Dieu lui dit d'aller auprès de son peuple. Et Moïse dit, c'est un peu compliqué. En plus, je parle très 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 mal. Je serais même bègue un peu si... Non. Tu vas y aller. Je parlerai mal. Tu prendras ton frère aîné, Aaron, qui lui avait été sauvé autrement que par un panier d'osier. Tu prendras ton frère Aaron, qui est donc de la descendant de Lévi, par son papa et sa maman, les mêmes que Abraham, les mêmes que Moïse, c'est-à-dire Amram et Jacobed, et lui parlera à ta place. Alors là, Moïse, il n'y a plus d'excuses. Mais Moïse lui dit, je vais venir au nom de qui ? Au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, du Dieu qui a parlé à tes ancêtres. C'était il y a 400 ans, je pourrais pas leur dire un autre, je sais pas, vous n'avez pas un petit nom particulier Et Dieu lui dit, tu diras que je suis t'envoie. Et je fais exprès de traduire en français, mais en hébreu, ça, il dit « Yahvé », ce qui veut dire « je suis ». Et c'est un nom impressionnant, qu'on n'a pas le droit de prononcer dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, on peut le prononcer, parce que Dieu, lève ses interdits pour se faire connaître largement, et pour que son peuple le fasse connaître largement. Pour la petite histoire, il y a quelques années, par respect des pratiques synagogales, on a souhaité ne pas forcément, dans la liturgie, prononcer le nom de Yahvé, pour faire plaisir à des autorités rabbiniques. Et moi, je pense que c'est un honneur rendu à l'Éternel de pouvoir dire qu'il est l'être. Vous voyez, je suis, ça veut dire je suis hors du temps, je suis l'être. Et si vous vous souvenez de ma première leçon, j'évoquais que Dieu est l'ens assez, c'est-à-dire il existe par lui-même. Il est le créateur. Tous les autres êtres sont des ens ab alio. sont des êtres qui existent par la puissance d'un autre. L'acéité de Dieu, par lui-même, par soi-même, a C-S-E, ENS, E-N-S, l'étant, ce l'être, a par, en latin, c'est soi-même. Ça, c'est plus facile à comprendre. Il se voit, S-E. ENS a C, c'est l'être qui se donne l'être. ENS ab alio, c'est l'être qui existe, ab, par, parce qu'il y a une voyelle, le A prend un B, alio, ab alio, par un autre. Et cet autre, avec un A majuscule, c'est Dieu. Donc quand Dieu dit à Moïse, tu diras que je suis t'envoie, c'est très impressionnant. Dieu se définit comme l'être. Oui. Alors il va voir le peuple, il lui dit, on tue vos enfants, vous êtes réduits en esclavage, on vous fait mourir de travail, eh bien moi je vais vous proposer d'aller au mont Horeb pour aller prier Dieu. Le mont Horeb est en plein désert, hein. Donc les Hébreux disent oui, alors on va aller là-bas. Comment va-t-on manger? Comment va-t-on boire? Dieu va pourvoir et nous allons quitter l'Égypte. Ah oui, mais on est réduit en esclavage, mais on mange. Il y a des oignons, par exemple, c'est très bon pour la santé et pour le cœur. Mais voyez-vous, vous souffrez quand même beaucoup. Oui. Alors, il va voir Pharaon et il va lui dire, voilà, le Dieu de mon peuple m'est apparu et il m'a demandé que tout mon peuple, avec toutes ses richesses, aille prier sur le mont Horeb. Et là, Pharaon, qui est quand même pas tout à fait idiot, lui dit, et vous reviendrez? Parce que ça fait une main d'œuvre gratuite. On va aller adorer notre Dieu sur le mont Horeb. Eh bien non. Et là, vous avez les 10 plaies d'Égypte. Alors qu'est-ce que sont ces plaies d'Égypte? Ce qui est impressionnant dans ces plaies d'Égypte, c'est que les 3 premières plaies, enfin les premiers signes que Moïse fait, il met son bâton par terre et son bâton se transforme en serpent. Eh bien les mages égyptiens, les sorciers égyptiens posent leur bâton par terre et ils se transforment en serpent. Mais là, le serpent de Moïse avale les serpents des sorciers égyptiens. Alors là, vous êtes pliés de rire et vous êtes d'accord avec les rationalistes, ça c'est un épisode complètement inventé. Eh bien non. On est effectivement dans, comment dire, des actes de sorcellerie et des miracles divins. Car si vous niez cet épisode du bâton de Moïse, eh bien vous allez nier les 10 plaies d'Égypte, qui sont les grenouilles, les sauterelles, la grêle, le feu, l'eau du Nil changée en sang, les mouches, les ténèbres et les sorciers égyptiens copient les grenouilles, copient l'eau changée en sang, mais pas sur tout le Nil. Et ne peuvent pas arrêter les fléaux. Ils font apparaître quelques grenouilles, mais Moïse, lui, Dieu envoie des milliers et des milliers de grenouilles. Et quand Moïse prie, les grenouilles meurent toutes. Les sauterelles meurent toutes. Vous voyez, les fléaux, les plaies d'Égypte s'arrêtent à la prière de Moïse. L'avant-dernière plaie, c'est les ténèbres. Il n'y a que les Hébreux qui voient et les Égyptiens sont plongés dans le noir. Et c'est affreux, ils savent plus où ils sont, et ils sont tous devenus aveugles. Et ces ténèbres s'arrêtent à la prière de Moïse. Pharaon est tellement impressionné par cette plaie des ténèbres qu'il dit « Partez, partez, emmenez vos bœufs, vos vaches, vos moutons, partez !» Mais le soir même, il rappelle Moïse et dit « Partez plus !» Alors, Moïse lui dit « Bien, il y a une dixième plaie, une dixième punition qui va t'ouvrir les yeux. » Et cette plaie, c'est la plaie de l'ange exterminateur.